les conférences du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours.
Introduction de la journée d'études, l'autre guerre de 1940, organisée dans le cadre de l'exposition temporaire, une étrange défaite, mai-juin 1940. Sous la direction d'Isabelle Rivet, directrice du CHRD, et de Julien Fargetas, docteur en histoire de l'IEP d'Aix-en-Provence. Présidée par Olivier Vivorca, historien et professeur d'histoire contemporaine à l'ENS de Paris-Saclay.
On peut dire que cette campagne de France a suscité une énorme littérature, et cette énorme littérature, elle est au fond à l'aune de l'événement traumatique que représente la défaite de la France en 1940. Personne n'imaginait lors de la déclaration de guerre en septembre 1939 que moins d'un an plus tard, la France et le Royaume-Uni, ce qu'on oublie trop souvent, seraient battus, et seraient battus aussi rapidement, seraient battus aussi piteusement. Les conséquences de cette étrange défaite, pour reprendre la formule du livre de Marc Bloch, mais qui, dans une certaine mesure, ne correspond pas à la réalité, puisque, en gros, l'idée que l'on retient est que cette défaite était inéluctable, était en quelque sorte programmée. Si donc cette défaite est traumatisante, il faut se rappeler que ce n'est pas la première. La France avait déjà enduré une défaite à Sedan en 1870, et donc, dans une certaine mesure, la défaite de 1940 constitue une réédition de cette défaite. Mais, et c'est ce qui explique que le traumatisme ait été si profond, les conséquences de la défaite de Sedan de 1870 ne sont en rien comparables aux conséquences de la défaite de Sedan de mai 1940. Alors bien sûr, la défaite de Sedan en 1870 a eu des conséquences majeures. D'abord parce que la France a perdu l'Alsace et la Lorraine, et donc ce traumatisme a été durable. Longtemps, les Français ont eu le regard fixé sur la ligne bleue des Vosges. L'autre élément, c'est que la France, elle a douté de son identité, elle a douté de sa puissance, au point d'engendrer, pour reprendre la formule d'un historien, une crise allemande de la pensée française, avec l'idée que les vainqueurs, au fond, le grand vainqueur de 1870, ça avait été l'instituteur prussien. Mais en même temps, le pays a réussi à surmonter cette défaite en 1870. Et on peut se dire que d'un mal est venu un bien. Alors bien entendu, l'Allemagne wilhelmienne n'était pas l'Allemagne nazie. Elle n'a pas occupé la France, cette Allemagne de Guillaume. Dès que l'indemnité de guerre a été acquittée, elle a quitté les territoires donc, qu'elle occupait. D'un mal est venu un bien parce que à l'Empire a succédé la République, et que ce nouveau régime, la Troisième République, eh bien, il a réussi à entamer un redressement spectaculaire, tant sur le plan géopolitique que sur le plan économique. Quelles que soient les critiques que l'on puisse rétrospectivement adresser à la République des opportunistes ou à la République des radicaux, il ne reste pas sur l'aventure impériale, par exemple, il ne reste pas moins vrai qu'il y a eu incontestablement un redressement français. Rien de tel en 1940, et c'est ce qui explique le caractère traumatique de cette défaite. Le pays a enduré pendant 4 ans une occupation qui, certes, ne saurait se comparer à ce qu'ont vécu les Polonais, mais qui a été une occupation intolérable. La France a également enduré un régime dictatorial, le régime de Vichy, qui a imposé sa loi autoritaire, xénophobe, antisémite et attisé les feux de la guerre civile. Les Français ont donc vécu pendant 4 années dans la peur, dans les pénuries, dans la répression. Et on peut dire que la France ne s'est jamais remise de ce désastre. Elle était en 1939 une puissance mondiale et elle a vécu un déclassement. Ce déclassement a été masqué durant la présidence de Charles de Gaulle par la magie du verbe, mais dans le même temps, ce déclassement était, dans une large mesure, inéluctable. Donc, au vu de ces constats, on comprend que les témoins et les historiens se soient pressés au chevet du mourant pour comprendre cette défaite. Alors, De Gaulle, le 18 juin 1940, tirait la leçon des événements. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Voilà ce qu'il déclare le 18 juin 1940. Ce à quoi Philippe Pétain rétorque le surlendemain, trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés, voilà les causes de notre défaite. Et donc on peut dire que dès 1940, eh bien au fond, les grands schémas interprétatifs sont posés. Pour le vainqueur de Verdun, la débâcle, elle résulte de ce que l'on pourrait appeler des causes profondes, qui remontent en partie à la Révolution française et en partie au Front populaire. L'homme du 18 juin, en revanche, considère cette défaite comme un événement, un incident, qui résulte d'abord et avant tout d'une désastreuse conduite des opérations. En d'autres termes, Philippe Pétain procède à une lecture politique du cataclysme de 1940, là où De Gaulle procède à une analyse militaire. Et on peut dire que les termes du débat depuis 1940, eh bien, n'ont guère évolué. Ces deux clés, militaire ou politique au sens large, constituent encore aujourd'hui le nombre d'or qui permet de décrypter l'événement au risque d'éliminer toute autre considération. Sur le plan militaire, donc, eh bien, les historiens ont balayé depuis quelques années les mythes qui entravaient notre lecture de l'événement. Et je pense qu'il faut mentionner ici deux grands acquis. Premier élément, premier acquis, les forces armées alliées et allemandes faisaient jeu égal, à une exception notable certes, l'aviation. Mais on sait que la France et le Royaume-Uni alignaient autant d'hommes, de chars, de canons que leur adversaire, et de manière plus surprenante, ce réarmement, et c'est aussi un mythe qui a été brisé, a été entamé par le Front populaire. Loin de désarmer le pays comme l'a prétendu Philippe Pétain, le gouvernement Blum a au contraire entamé un réarmement et donc a largement préféré les canons au beurre. A l'inverse, et c'est aussi un peu une surprise, je pense ici aux travaux d'Adam Tooze, les études dédiées à l'économie allemande ont révélé la très grande fragilité de l'économie du Troisième Reich. L'outil militaire présentait des faiblesses, qui avaient d'ailleurs été révélées lors de la campagne de Pologne, mais surtout l'Allemagne n'avait absolument pas les moyens de mener une guerre longue, elle manquait de devises, elle manquait de matières premières, ce qui veut dire que la victoire de 1940 côté allemand ne s'est pas jouée sur le plan numérique, mais sur le plan stratégique et opérationnel. Le second acquis historiographique, c'est qu'au fond, cette recherche elle a ruiné les fausses évidences en, pour aller vite, réévaluant la stratégie française et en replaçant la stratégie allemande dans de plus justes perspectives. L'idée qui dominait et qui a dominé pendant longtemps était qu'au fond, les Allemands avaient conçu une stratégie, le Blitzkrieg, qu'ils auraient ensuite mécaniquement appliquée, avec l'idée que ce Blitzkrieg correspondait à l'état de l'économie. Comme l'Allemagne ne pouvait pas économiquement mener une guerre longue, elle aurait concentré ses moyens sur des armes, les blindés et l'aviation principalement, pour emporter la décision en frappant sur le point faible du dispositif ennemi, et emporter donc la décision le plus rapidement possible. Or, ce que l'on voit, et l'idée donc, c'est que le pouvoir allemand évitait ce que les historiens appellent un réarmement en profondeur, au profit d'un réarmement en surface, tout simplement pour éviter que la population allemande ne succombe aux privations qui avaient provoqué, on le sait, l'effondrement de 1917-1918. Or, les recherches menées depuis au moins une quarantaine d'années, et je pense que de ce point de vue, Richard Auvry a ouvert le bal, ont montré d'abord que les Allemands ont réarmé dès 1936, nous dit Auvry, dès 1933, nous dit Adam Tooze, que ce réarmement n'a pas été un réarmement en surface, mais bel et bien un réarmement en profondeur, et que surtout il n'y a jamais eu de théorisation ex ante du concept de Blitzkrieg. Du coup, le plan Manstein doit être considéré pour ce qu'il a été, un pari brillant et audacieux. Il concentrait le gros des forces allemandes sur le point le plus faible de la défense française. Il frappait à un endroit inattendu, les Ardennes, offrant donc à l'attaquant le bénéfice de la surprise stratégique. Mais ce coup de poker qui correspondait au tempérament du Führer représentait, nous dit Frieser, avant tout un acte de désespoir du niveau opérationnel pour sortir d'une situation désespérée du niveau stratégique. Car la situation de l'Allemagne n'était pas bonne. Bien entendu, la diplomatie française a, à juste titre, été critiquée, tout comme la diplomatie britannique l'a été. La stratégie d'appeasement, l'incapacité à bénéficier d'une alliance de revers avec l'Union soviétique, autant effectivement de critiques que l'on peut et que l'on doit adresser aux deux diplomaties britanniques et françaises. Mais le sort de l'Allemagne nazie n'était guère plus enviable, ce que l'on oublie. Bien entendu, l'Allemagne nazie, par le pacte de 1939, évitait une guerre sur deux fronts, mais dans le même temps, elle partait seule au combat. Elle n'avait absolument pas d'alliés, ni l'Espagne, ni l'Italie, et même le Japon, l'alliance n'étant que formelle. Donc, la situation française et britannique n'était peut-être pas idoine, mais la situation allemande ne l'était pas plus. La stratégie française a été réévaluée, par ailleurs, par tout un ensemble d'auteurs, je pense par exemple à Martin Alexander, et on peut dire que cette stratégie n'était pas inepte. La ligne Maginot que l'on a tant raillée ne visait pas à établir une muraille infranchissable. Les stratèges français savaient très bien que la ligne Maginot ne bloquerait pas l'avancée allemande. Elle visait juste à gagner du temps et à permettre à la France d'organiser une mobilisation en bon ordre, de gagner du temps pour préparer la bataille méthodique qui assurerait la victoire. Ce qui veut dire que tout s'est joué non sur les stratégies, mais sur leur mise en œuvre. Et la grande erreur de Gamelin a bien entendu été de sortir du schéma qu'il avait lui-même élaboré pour porter la guerre non seulement en Belgique, mais également aux Pays-Bas. Et donc, pour réaliser cette manœuvre d'Ilbreda très contestable, puisqu'aucune discussion d'état-major n'avait été véritablement engagée ni avec les Belges, ni avec les Néerlandais, il a transféré la 7e armée, qui était la plus puissante unité à l'ouest, ce qui a privé de réserve le secteur de Sedan. Et cette erreur initiale a été amplifiée par la conduite des opérations, alors que les Allemands misaient sur la vitesse et l'initiative, au point que des généraux tels Rommel ont coupé leur radio pour ne pas être ralentis, eh bien les Français attendaient les ordres, et fidèles aux enseignements de la Grande Guerre, ils cherchaient désespérément à colmater les brèches pour rétablir un front continu qui n'avait plus aucun sens. Facteurs de court et de long terme expliquent cette conduite différenciée des opérations. L'Allemagne, on l'a dit, bénéficiait d'un encadrement de qualité. Ces jeunes généraux avaient médité les raisons de la défaite de 1918 et compris que les panzers pouvaient manœuvrer séparément tout en bénéficiant de l'appui aérien. De même, les officiers et les sous-officiers avaient été formés dans la clandestinité à l'époque glorieuse de la Reichswehr. Et donc, ils avaient appris à être autonomes. Au contraire, les Français ont été prisonniers de la victoire obtenue en 1918. Ils ont estimé, comme les Britanniques, que les chars devaient se borner à soutenir l'infanterie, ce qui a amené à fractionner les blindés et donc à se priver d'une puissante masse de manœuvre. Et le commandement, qui était un commandement pyramidal, a laissé peu d'initiatives aux subordonnés, un phénomène que le caractère pathétique des liaisons radio a amplifié. Ceci dit, les hasards de court terme ont aussi joué. Les Français n'ont pas assez porté attention au grand embouteillage qui ralentissait les colonnes de Kleist avant le massif des Ardennes. La panique de Bulson le 13 mai 1940 a épouvanté les troupes de la 55e division d'infanterie, persuadées que les chars allemands déboulaient. Cette unité s'est débandée, elle a dégarni le front à un endroit et à un moment charnière, et l'aviation britannique, l'aviation française, n'ont pu jouer qu'un rôle très modeste, faute d'avoir été suffisamment concentrée. La lecture politique de Pétain attribuait la défaite à des facteurs idéologiques. Les prodromes, je l'ai dit, remontaient à la Révolution française, et les signes les plus dévastateurs, l'esprit de jouissance par exemple, s'était manifesté pendant l'entre-deux-guerres. Alors ici encore, l'historiographie a fait lisière de cette lecture simpliste. Elle a montré qu'un redressement français s'était bien produit sous la houlette de Daladier, d'abord, puis, du point de vue économique, sous la houlette de Raoul Dautry et de Paul Reynaud. Elle a également montré que les communistes n'avaient pas saboté l'appareil productif, que la population dans son ensemble avait accepté et soutenu la guerre, sans enthousiasme débordant, bien sûr, mais non sans résolution. Alors, cette révision ne doit pas pour autant conduire à aborder la drôle de guerre avec un regard résolument optimiste. L'Union nationale est restée imparfaite, le personnel politique a quand même brillé par sa médiocrité, en raisonnant dans le cadre étriqué des combinaisons de la Troisième République. Donc, plutôt que d'impulser une direction énergique, eh bien, les présidents du Conseil ont continué à raisonner comme ils raisonnaient traditionnellement, par exemple, en essayant d'inclure leurs ennemis potentiels à l'intérieur du cabinet, plutôt que d'avoir à les affronter à l'extérieur. Donc, certaines fonctions ont été confiées à des hommes parfois incompétents ou malfaisants, je pense à Georges Bonnet, aux affaires étrangères, bien sûr, ou incompétents, Jean Giraudoux, commissaire à l'information, où il n'a guère brillé. On peut rappeler aussi que Reynaud et Daladier se haïssaient, ce qui a nuit à la cohésion de l'exécutif. On peut ajouter également que si les communistes n'ont pas conspiré contre la patrie, ils avaient été placés en lisière de l'échiquier politique et de la société française, et que Daladier a mené une politique anticommuniste très virulente, tout simplement pour donner des gages à sa majorité droitière. Et donc on comprend qu'il y a eu peut-être une réticence de la part des communistes à adhérer au mot d'ordre patriotique diffusé par l'exécutif. Les Français, je l'ai dit, n'ont pas cédé au défaitisme, mais en même temps, ils étaient loin de subordonner leurs intérêts particuliers à l'intérêt général. On peut juste rappeler un élément anecdotique mais significatif. En 1914, les viticulteurs ont donné leur vin gratuitement à l'armée française. Ils l'ont fait payer en 1939. Mais une lecture similaire peut s'appliquer à l'Allemagne nazie. Le peuple allemand ne souhaitait pas non plus la guerre. On sait que Hitler a été absolument courroucé, que Chamberlain, à son retour de Munich, ait été applaudi. Et William Shirer, le journaliste américain bien connu, a relevé qu'à la différence de 1914, les Berlinois n'avaient pas attaqué les ambassades ennemies. Quant à l'incompétence que j'ai mentionnée côté français, eh bien, il faut rappeler que le gouvernement nazi, lui aussi, ne brillait pas toujours par ses compétences, et les exemples de Göring ou de Ribbentrop l'attestent. Bref, la défaite de 1940 ne résulte ni d'une supériorité militaire et stratégique allemande, ni d'une défaillance politique ou idéologique de la République française. Elle découle d'une pluralité de motifs, parfois majeurs, parfois mineurs, et c'est cette combinatoire qui a engendré un processus qui a conduit au désastre de 1940. Et si nous pouvons proposer ce constat, c'est grâce aux avancées de l'historiographie qui nous permet de comprendre le drame de 1940 en arrachant le masque des apparences et en préférant aux lectures idéologiques manichéennes et biaisées l'examen nuancé des faits. Donc nous connaissons très bien la campagne de 1940. Et donc la journée d'études organisée à l'initiative du CHRD et de Julien Fargetas pourrait paraître totalement superflue, puisque nous connaissons tout. Mais je crois que, justement, ce serait aller un peu vite en besogne. Pour tout un ensemble de raisons. Première raison, au fond, l'historiographie s'est quand même concentrée sur les grands hommes, les responsables politiques, les chefs militaires, mais elle n'a accordé qu'une attention très distraite aux hommes. En d'autres termes, nous avons, sur la campagne de 1940, une vision beaucoup plus top-down que bottom-up. La stratégie, les choix diplomatiques, les options politiques ont reçu l'attention nécessaire, qu'ils méritaient. Mais le comportement des soldats, le comportement des civils a été négligé, hormis bien entendu les grands événements que représente, par exemple, l'Exode. Surtout, et c'est ce qui est tout à fait passionnant, la campagne de France n'a pas été considérée comme une guerre idéologique, et ce pour tout un ensemble de raisons. D'abord parce qu'Adolf Hitler ne considérait pas les Britanniques comme un peuple ennemi. On sait qu'il aurait souhaité, et qu'il a souhaité longtemps, une entente avec Londres, à condition bien entendu que le Royaume-Uni laisse les mains libres à l'Allemagne sur le vieux continent. Et cette exigence était inacceptable aux yeux de Winston Churchill. Bien sûr, la France était considérée comme une ennemie héréditaire et méprisable. On ne peut pas dire que le Führer ait eu une haute opinion des Français. Mais elle était surtout considérée comme un obstacle géopolitique. Il fallait défaire la France pour venger l'insulte du traité de Versailles, recouvrer les provinces perdues et surtout pouvoir, en ayant les mains libres à l'ouest, engager la grande confrontation à l'est. En d'autres termes, la haine ou le mépris que le Führer portait aux Français n'avait aucun rapport avec celle qu'il vouait aux Juifs ou aux Slaves. Et ce constat nous a conduit peut-être à euphémiser le caractère idéologique de la guerre à l'Ouest, d'autant que le regard que nous portons aujourd'hui sur cette offensive porte la marque de notre savoir. Les crimes atroces qui avaient été perpétrés en Pologne en 1939, qui furent ensuite perpétrés à l'Est à partir de 1941, ont amené à une forme de relativisme. Bien sûr, nous savons depuis longtemps, des mémoriaux en témoignent, que des massacres, que des crimes de guerre ont été commis à l'été de 1940. Mais il semble faire pâle figure comparé à la barbarie déployée sur le front russe et voire également, dans une certaine mesure, dans les Balkans. Et parce que Hitler ne prévoyait pas l'anéantissement des Français, bien qu'ils fussent un peuple dégénéré, et parce que la guerre à l'Ouest a emprunté un tour moins sanguinaire qu'à l'Est, nous éprouvons le sentiment que cette campagne de France a obéi aux lois de la guerre, à quelques tragiques exceptions près. Et du coup, les historiens ne se sont guère intéressés au quotidien des hommes, victimes et bourreaux, alors que cette question constitue, me semble-t-il, un enjeu capital pour qui étudie le front russe. Ajoutons que les conséquences de cette campagne ont été si dramatiques, je les ai rappelées, qu'elles ont amené à occulter le déroulement des combats. Face à la gravité des enjeux, les historiens ont donc plutôt scruté l'amont, la stratégie des belligérants, la puissance de leur outil militaire, ainsi que l'aval, l'armistice, ce que l'on aurait pu faire si l'armistice n'avait pas été signé, l'arrêt des combats, l'instauration du régime vichiste, plutôt que le cours même de la campagne, les combats, le bombardement, le comportement des hommes. Alors, nous savons bien sûr que la campagne de France n'a pas été exempte de crimes, et notamment de crimes racistes, et ceci, Jean Moulin le rappelait dans Premier combat, et son attitude exemplaire avait précisément pour origine à Chartres de répliquer de manière tout à fait noble aux crimes racistes que les autorités allemandes voulaient lui imputer. Nous savons aussi par les enquêtes fouillées de Raphaël Scheck et de Julien Fargetas qu'il y a eu des atrocités commises. Nous savons aussi que les Allemands ne se sont pas privés d'assassiner de sang-froid des soldats, français ou britanniques, dans l'Hexagone comme en Belgique. Mais au fond, nous peinons toujours à intégrer cette première phase de la guerre dans le grand récit d'une guerre idéologique et raciale. Et pourtant, elle s'intègre, cette guerre, cette campagne de France, dans ce grand récit. Et donc, en braquant le projecteur sur cette dimension, connue bien sûr, mais je crois mésestimée, cette journée d'étude aidera à restaurer la véritable dimension de l'étrange défaite dans la plénitude de ses composantes, en rappelant que la Wehrmacht n'a pas attendu l'opération Barbarossa pour agir comme l'armée de Hitler.
Conclusion par Olivier Vivorca, historien et professeur d'histoire contemporaine à l'ENS de Paris-Saclay.
Donc, bonsoir. Il avait été rappelé que, au fond, dans la manière dont nous concevons la campagne de France, le primat était accordé par les historiens à une vision top-down, une vision des dirigeants, plus qu'une vision bottom-up. Et ce qui ressort de cette journée, c'est que la lecture bottom-up est une lecture fructueuse, et du coup, on peut se demander ce que nous avons appris au terme de cette journée. Alors, on l'a dit, que les Allemands aient commis des massacres durant la campagne de France n'était pas inconnu. C'est un fait qui avait été relevé par les témoins, Jean Moulin, mais également par l'historiographie. Mais au fond, ces actes de barbarie étaient souvent considérés comme des phénomènes, au fond, isolés, des dommages, somme toute, collatéraux, dans une campagne qui aurait été menée, in fine, selon les lois de la guerre. Et les exemples qui ont été développés démontrent que ce tableau mérite de sérieuses retouches. Car de nombreux crimes, de nombreux massacres ont été commis dans la France entière. On l'a vu dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment dans la dernière des 4 de mai, D'autres ont été commis dans l'Aube, d'autres encore dans la région lyonnaise, et beaucoup de ces crimes incorporent une forte dose de racisme. On pourrait se dire que ces crimes ont été commis dans la fureur du combat. Et c'est l'un des premiers acquis de cette journée de bien montrer que ces crimes ont été commis de sang-froid et non dans l'énervement, dans la passion du choc. Elles frappent non, pour aller vite, des combattants, mais des prisonniers de guerre. Elles frappent non des soldats, mais des civils. Et souvent, ces crimes sont perpétrés après les combats, à Pont-de-Gy, par exemple. Dans le cas des exécutions racistes, les exemples de massacres commis dans la fureur du combat ne représentent que 12% des décès. Les meurtres commis de sang-froid, 72%, l'emportent très largement. On pourrait croire également que ce sont les unités les plus idéologisées, notamment la SS, qui sont les plus sanguinaires, ce qui correspondrait au fond à l'image traditionnelle d'une Wehrmacht propre et d'une SS sanguinaire. Or, on le voit dans les exemples donnés par Julien Fargetas, c'est bien l'armée régulière qui a commis les crimes et non la SS. Et ces crimes globaux ont, toujours dans les exemples donnés par Julien Fargetas, visé au premier chef les Noirs à hauteur de 84%. Alors, comment expliquer ces crimes ? Est-ce qu'on est au fond dans une logique militaire ou est-ce qu'on est dans une logique raciste ? Plusieurs éléments interviennent. D'une part, les unités qui ont commis le plus de meurtres sont, nous a expliqué Jean-Luc Leleux, souvent inexpérimentées. Ce sont des unités qui sont mobilisées à partir de 1939, qui sont engagées pour la première fois, sous-entendu, elles n'ont pas connu les combats de Pologne, et elles sont massivement composées de réservistes et non de soldats de carrière. Et c'est ainsi que la 267e division d'infanterie se distingue, si l'on peut ainsi s'exprimer, dans les secteurs de Carvin. Il est vrai que les SS se sont aussi manifestés dans l'exécution de prisonniers de guerre français ou britanniques. Alors, il faut voir dans le cas spécifique de la SS, qui à l'époque est une arme jeune, outre l'endoctrinement de cette arme d'élite, le désir sans doute de se distinguer en montrant une dureté spécifique pour s'imposer par rapport aux camarades, mais également rivaux de la Wehrmacht. Ce qui explique également ces exécutions perpétrées de sang-froid, c'est aussi la dureté de la campagne de 1940, qui, au rebours d'une idée reçue, n'a pas été facile, n'a pas été une promenade de santé. Et si nous connaissons l'issue tragique pour la France de la campagne de 1940, les Allemands qui combattaient l'ignoraient. Et donc, cette campagne qui a été dure, cette campagne qui a été difficile, a fortiori quand le terrain était hostile, en milieu urbain par exemple, ou lorsque les Allemands se heurtaient à des adversaires aguerris. C'est le cas notamment des troupes britanniques du BEF, du corps expéditionnaire, hein, mais c'est le cas aussi des troupes coloniales. Eh bien, cette résistance acharnée a pu générer un désir, une soif de vengeance que les massacres ont étanché. Il faudrait aussi se pencher sur les lieux du crime, car dans l'Aube, bien des exactions ont été commises dans des lieux isolés, ce qui incite à s'interroger. Faut-il considérer que ces lieux offraient la discrétion nécessaire pour commettre à l'abri de regards indiscrets des crimes sanguinaires ? Ou faut-il admettre que parce qu'ils étaient isolés, les Allemands, décidés à avancer vite, n'aient pas voulu s'encombrer de prisonniers ? Quoi qu'il en soit, dans tous ces exemples, nous voyons bien que c'est une logique militaire qui prévaut, quelle que soit la barbarie des crimes perpétrés. Et ces crimes, bien entendu, ont joué un rôle extrêmement important. Même quand ils ne sont pas connus sur le plan local, eh bien, ils ont fortement marqué les esprits à l'échelle locale, à l'échelle régionale, dans l'Aube, par exemple. Logique militaire également dans cette tension nerveuse qui anime les troupes et qui, au fond, a pu leur donner un sentiment d'échec, échec provoqué par un ennemi qui aurait usé de méthodes déloyales, et on retrouve ici le mythe traditionnel des francs-tireurs, et donc chercher ici encore, en commettant des crimes, à se venger. Et de fait, c'est parce qu'ils avaient été les plus coriaces, je l'ai dit, que les soldats britanniques et les soldats coloniaux ont été visés au premier chef. Ceci dit, on ne peut pas simplement ramener à une simple logique de guerre les massacres perpétrés, car ces soldats ordinaires de la Wehrmacht ou extraordinaires de la SS ont commis ces crimes aussi parce qu'ils baignaient dans un univers mental. Un univers mental, ceci noté, qui précédait, qui préludait largement à l'arrivée au pouvoir des nazis. Avant même 1933, le racisme, l'antisémitisme, l'impérialisme avaient marqué les esprits. Et les souvenirs de la Première Guerre mondiale restaient très présents. Ils restaient très présents en tant qu'humiliation vécue par l'armée allemande et le peuple allemand, mais ils vivaient également dans la mémoire au travers des soldats coloniaux qui avaient déjà été accusés des pires exactions, et ce souvenir avait été réactivé lors de l'occupation de la Ruhr en 1923 par le mythe de la honte noire. Il y avait donc un terrain qui avait largement imprégné les esprits, qui avait créé au fond une forme d'acculturation qui n'était pas une acculturation provoquée dans une logique top-down par une propagande qui aurait modelé les esprits. Il y avait donc une culture qui existait, et cette culture, eh bien, elle a servi de terreau à l'endoctrinement nazi, un endoctrinement qui a été amplifié par un double complexe, un complexe d'encerclement, l'idée que l'Allemagne donc est environnée d'ennemis hostiles, et c'est ce qui explique que les Allemands consentent à la guerre, comme l'a montré Nicolas Stargardt. Autre complexe également, un complexe d'infériorité, qui remonte sur le plan militaire à des époques très anciennes parfois, même l'époque Louis XIVienne, et ce sont au fond ces peurs que le nazisme a amplifiées. Le nazisme amplifie ses peurs, le nazisme amplifie ses haines, et dans cette mesure, tous ces soldats sont bien des soldats de Hitler. Alors, est-ce qu'il faut donc utiliser la clé du racisme pour expliquer les massacres dont les tirailleurs sénégalais, au premier chef, ont été victimes? Alors, bien entendu, il faut rappeler que les soldats britanniques ont aussi été victimes de la barbarie nazie, ce qui pourrait relativiser la clé raciste sans totalement l'exclure. Car on voit bien que la pensée raciste, le modus operandi raciste, est constamment présent dans la logique des envahisseurs. On le voit d'abord par les victimes, mais on le voit aussi par le fait que les Allemands séparent dans les sépultures soldats blancs et soldats coloniaux. On le voit par le fait que dans l'aube, les Allemands donnent l'impression de se livrer à l'égard des soldats coloniaux à de véritables chasses à l'homme. On le voit d'ailleurs au fait que sur 150 à 170 hommes exécutés entre le 15 et le 20 juin, une période donc très limitée qui montre le caractère sanguinaire des massacres perpétrés, la très grande majorité sont des soldats coloniaux. Comment enfin, dans cette dimension raciste, ne pas souligner l'acharnement des troupes allemandes à détruire les symboles de ce que l'on appelait la plus grande France, les monuments consacrés au général Mangin, les monuments des héros de l'armée noire de Reims qui avaient été érigés en 1924? Il s'agissait donc d'une cible symbolique, mais prioritaire, sur laquelle ou sur lesquelles le vainqueur s'est véritablement acharné. Ici encore, les monuments dédiés à la force coloniale, à la force noire, n'ont pas été les seuls visés. Bien d'autres monuments ont été saccagés. Je pense par exemple au monument aux morts de Clamecy. Mais ces monuments aux morts, ou ces symboles de la force noire et de l'engagement des soldats coloniaux, ont été particulièrement visés et ont engendré une violence particulière, de sorte que à la saison noire des tirailleurs, victimes des exactions nazies, a aussi correspondu une saison noire des monuments. Alors que la France avait, à l'inverse, reconnu sa dette en érigeant des monuments non seulement à Reims, mais également à Dakar en 1923, comme à Bamako l'année suivante. Car la France, à la différence des États-Unis, avait mobilisé des soldats de couleur dans ses guerres, pendant la Grande Guerre, mais également pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'aux États-Unis, cet emploi a été beaucoup plus compliqué. Le pays vivait sous le règne de la ségrégation, et à éviter d'enrôler des conscrits dans des unités combattantes pour tout un ensemble de raisons compliquées, mais dont beaucoup remontent aussi à l'héritage de la guerre de Sécession. Si l'on admet que l'armée de Hitler était une armée raciste, on pourrait s'attendre que les soldats noirs de l'US Army, globalement parlant, aient été aussi visés par des exactions. Or, ici, le bilan appelle à la nuance. Car, d'une part, les aviateurs noirs, ils n'étaient pas nombreux, mais il y a eu des aviateurs noirs, 32, qui ont été abattus. Ils n'ont pas toujours été ségrégés par les nazis. Certes, un exemple tragique invite à nuancer le constat, puisque Walter Manning a été extrait de sa prison, puis pendu, mais bien d'autres aviateurs anglo-américains, 1000 au total, ont été lynchés. Et sur ces 1000 aviateurs, eh bien, on ne peut pas dire que les 32 aviateurs noirs qui ont été abattus pendant la Seconde Guerre mondiale ont connu ce sort funeste. On sait par ailleurs que les Noirs n'ont pas, en règle générale, servi dans des unités combattantes, mais en même temps, nous avons un exemple, et cet exemple, c'est celui de la 92e division d'infanterie engagée en Italie. Et ici, cette 92e division d'infanterie engagée en Italie, eh bien, n'a pas été victime d'exactions particulières. Au contraire, les appels à la désertion de la propagande allemande expliquaient aux Africains américains qu'ils seraient mieux traités qu'aux États-Unis, que leur sort serait meilleur, que leur liberté religieuse serait respectée. De même, le transfert d'environ 370 000 prisonniers de guerre aux États-Unis, parfois dans le Sud, véritablement la zone, la région la plus raciste des États-Unis, n'a pas provoqué de tension entre les captifs et les populations noires, même si les prisonniers de guerre allemands ont été, à la colère des Africains américains, mieux traités qu'eux dans certaines villes du Deep South. En revanche, et ceci pour nuancer, la colonne Piper a assassiné et mutilé 11 soldats noirs à Verrette, soldats noirs qui étaient intervenus à Bastogne. Ceci dit, on peut ici encore rappeler que cette sauvagerie était la marque de fabrique de cette colonne barbare. On se souvient du massacre de Malmedy et qu'elle a au total assassiné plus de 350 prisonniers de guerre. Ici, on doit peut-être refaire intervenir un autre élément. CSS pensait sans doute que l'offensive des Sardaignes serait victorieuse et donc on peut interpréter cette victoire prochaine comme une liberté de tuer et d'assassiner selon leur bon plaisir, puisque après l'échec de l'offensive des Ardennes, on ne recense en apparence plus d'exactions de ce type. Au total, donc, et c'est la conclusion qui s'impose, le sort des tirailleurs noirs ne peut se comparer au sort des Africains américains, ce qui invite à reconsidérer la globalité du racisme bien réel des forces allemandes, eh bien, au prisme de la nuance. En revanche, ce qui est acquis, c'est que la haine des Noirs a été omniprésente dans la propagande nazie, qui a repris, au fond, les canons les plus éculés du Ku Klux Klan. Ceci posé, ces crimes que nous connaissons ne sont pas si facilement documentés. Bien des archives restent muettes ou lacunaires. Alors, bien entendu, l'historien ou le chercheur n'est pas nécessairement désemparé. Les archives départementales, dans l'Aube par exemple, peuvent être mobilisées pour documenter ces crimes. On peut rappeler que les maires des départements ont, par exemple, dès la Seconde Guerre mondiale, recensé l'ensemble des morts, français et étrangers, civils et militaires, avec une très grande précision, une précision d'autant plus grande que, parfois, les édiles assortissaient le bilan de commentaires permettant de recontextualiser, au fond, ces massacres. S'ajoutent dans la même veine les enquêtes diligentées après la Seconde Guerre mondiale par le Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui offre ici encore une base documentaire. On ajoutera que la presse de l'après-guerre offre de belles ressources lorsque, par exemple, les journalistes de l'Est éclair retracent massacres et crimes. Enfin, témoignages et recherches à compte d'auteur offrent aussi des informations précieuses. Mais tout n'est pas dit, et c'est à cette aune que les photographies, dont nous avons eu de très beaux exemples aujourd'hui, constituent une ressource bienvenue, quoique sous-utilisée par les historiens de métier. Ce sont ces photographies qui permettent notamment de retracer le massacre de Chasselet dans sa chronologie comme dans son horreur. Dans le même temps, il convient de ne pas céder à l'ivresse du collectionneur ou de l'historien. Les photos ne parlent pas toutes seules. Elles sont souvent non sourcées, dispersées dans des albums, mal référencées, c'est-à-dire que les photos, comme toute source, méritent d'être questionnées.
interrogées, problématisées, mais leur richesse est évidente. Elles donnent notamment à voir, dans l'exemple de Chasselet, toute l'émotion de ces soldats emmenés à la mort. Cette histoire vue d'en bas est aussi passionnante lorsqu'on se reporte à un événement un peu passé inaperçu, les brèves semaines d'occupation qui ont caractérisé le début de juin-juillet 1940, occupation dont Georges Cohen dit, premier adjoint de la cité des Gaules, a été le témoin privilégié puisqu'il a remplacé au fond le maire Édouard Herriot, retenu par ses fonctions de président de la Chambre pendant ces semaines tragiques. Et si son témoignage est passionnant, c'est, me semble-t-il, parce qu'il montre toute l'ambivalence des Français et des notables face à cette première occupation, face à la victoire allemande. Que les Allemands n'aient pas été les bienvenus relève de l'évidence. En d'autres termes, on ne peut pas du tout suspecter Coendi et les notables français de l'époque d'une sympathie pour l'occupant, a fortiori d'une sympathie pour les nazis. On voit bien, au travers de son témoignage, Georges Coendi se démener pour limiter l'avancée des troupes. Il brûle, il fait brûler les stocks d'essence, il dissimule le ravitaillement. On voit donc bien qu'il s'agit de tout faire pour endiguer l'avance de la Wehrmacht et limiter aussi son triomphe. Il s'agit aussi, et là on retrouve ce qu'on appelait le devoir d'État des édiles, de protéger les populations, les civils, les militaires. Et donc le premier adjoint aide les soldats de la Légion à troquer leurs uniformes contre des vêtements civils. Il s'emploie aussi à éviter, je l'ai dit, l'ennemi de triompher de manière trop éclatante, en évitant une humiliante cérémonie place des terreaux. Et l'on voit ici, dans l'exemple de Georges Coendi, que le troisième terme de la devise républicaine, fraternité, est bien vivant. C'est une fraternité, et c'est une fraternité qui est exempte de racisme. Jean Moulin l'avait montré à Chartres. Elle vise aussi bien les Français que les étrangers, puisque les hommes de la Légion sont des étrangers, les Blancs comme les Noirs, avec toute l'affaire des otages, de ces mystérieux otages sur lesquels, qui indignent Coendi, bien qu'il ne puisse pas faire grand-chose. Mais dans le même temps, on voit aussi toutes les limites de l'attitude de l'édile. Il n'est à aucun moment question de résister, ni à court, ni à long terme. L'objectif de Coendi n'est pas du tout de répondre à l'appel du général de Gaulle. Son objectif, c'est de négocier la contrainte, non de préparer les voies de la résistance. Et ce qu'il y a d'intéressant, parce qu'il ne s'agit pas, bien entendu, d'un jugement moral, c'est que l'idée ne semble même pas lui avoir traversé l'esprit. C'est-à-dire que la défaite, me semble-t-il, est intériorisée. Il a intériorisé la défaite. La loi de la Wehrmacht semble implacable. Il s'agit juste de négocier la contrainte. Il ne s'agit ni de la combattre, ni de la nier. Il ne convient donc que d'éviter le pire, de protéger la population et d'éviter au maximum les rigueurs de l'occupation tout en rusant au maximum. Or, les photos suggèrent que les civils partagent ce sentiment. Car la guerre et l'arrivée des Allemands devient un spectacle. Les badauds se massent pour assister à l'arrivée des Allemands. Ils ne semblent pas du tout, comment dirais-je, se préparer à un combat ni moral ni militaire. On notera d'ailleurs que le seul signe de V comme victoire est tracé par un soldat noir, et je trouve que de ce point de vue, il y a là plus qu'un symbole. C'est dire au total toute la complexité de cette campagne de France. Une campagne, bien entendu, très difficile à commémorer, parce que le souvenir s'efface, parce qu'il est très difficile de commémorer une défaite, parce que aussi, lorsque l'on repense au massacre, les crimes de 1944 et les rigueurs de l'occupation ont sans doute effacé les crimes de 1940. Parfois, pourtant, des monuments, le tata de Chasselet, les plaques érigées dans les communes, aident à structurer la mémoire. Mais ces crimes, dans le même temps, qui nous invitent à considérer la période 1939-1945 comme un tout, qui s'insère donc dans un narratif, et notamment un narratif de la brutalité et de la barbarie nazie, ces crimes épars restent en même temps très localisés. Ils n'ont pas, je crois, forgé une mémoire commune en raison précisément de leur dispersion. Et donc, du coup, nous avons affaire à un archipel de la souffrance oubliée, et c'est cet archipel de la souffrance oubliée que nous avons redécouvert aujourd'hui. J'en ai terminé.
Merci beaucoup. Ça nous aide beaucoup à rassembler nos idées de la journée, parce que c'est vrai que ça nous a emmené dans des endroits où on ne va pas souvent, finalement, y compris avec une approche comparée avec les soldats américains. Alors, sur le chat, quelques... Ce n'est pas des questions, c'est des merci. Alors, il y avait une question ce matin que je n'ai pas relayée, c'était « Doit-on parler de campagne de France ou de bataille de France ?»
On peut utiliser les deux. Selon ce qu'on... Pardon. On peut utiliser les deux termes, campagne de France ou bataille de France. Bataille de France, on va peut-être plus insister sur les combats qui se sont déroulés. Campagne de France, on fera peut-être plus attention à la logistique, à d'autres dimensions. Hein. Dans une histoire de la campagne, on va analyser, par exemple, les préparatifs, alors que dans une bataille, on ne va pas nécessairement analyser les préparatifs de la bataille, notamment les préparatifs sur le long terme.
Quand un regard croisé existe réellement ?
Eh bien, écoutez, vous êtes le lieu privilégié pour organiser ce type de rencontre. Mais de toute façon, il y a déjà eu des colloques avec des collègues allemands. Hein, donc, ça a déjà été fait. Hein.
Comment commémorer la mémoire du sort des prisonniers de guerre français ?
Mais là, je crois que c'est un gros problème, mais je ne suis pas le mieux qualifié, parce que je ne suis pas le mieux qualifié pour en parler. La seule chose que je peux dire, c'est que commémorer le sort des prisonniers a été quelque chose de compliqué. Parce que, au fond, ces prisonniers ont été des victimes, bien entendu. Ils ont passé 4 années particulièrement pénibles dans les stalags ou les oflags, ou alors à travailler pour l'ennemi quand ils avaient demandé à être, pour reprendre la formule consacrée, transformés. Dans le même temps, les souffrances qu'ils ont endurées ne peuvent absolument pas se comparer à celles des déportés, soit dans une déportation de persécution, soit dans une déportation de répression. Donc dans l'échelle des douleurs, ces prisonniers ne viennent pas nécessairement au fait des priorités. Et d'autre part, ces prisonniers sont aussi les vaincus de 1940. Donc ils ne peuvent pas prétendre au statut de héros, contrairement par exemple aux résistants ou aux soldats des forces françaises libres. Donc comment commémorer ? Comment commémorer des soldats qui ont des soldats et des officiers qui ont indiscutablement souffert, mais beaucoup moins que d'autres catégories, et comment commémorer des individus qui n'ont sans doute pas démérité dans la campagne de France, mais qui sont aussi des vaincus. Et je pense qu'il est très difficile, du coup, d'avoir une juste commémoration. Quand je dis juste commémoration, je veux dire à la fois une commémoration qui soit juste d'un point de vue mémoriel, c'est-à-dire équitable, et qui soit également juste en termes de tonalité. Et je crois que ce problème n'a pas été véritablement résolu par les gouvernements de la 4e et de la 5e République. Voilà, donc cette commémoration est une commémoration compliquée.
Les conférences du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours.